Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Alors, aujourd'hui, une émission avec une partie de rediffusion. Et nous allons revenir, si je puis dire, à la bande dessinée, à la BD, à l'actualité dans la première partie de cette émission avec quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu au tout début de notre émission. Je parle il y a quelques mois d'une rencontre avec Hélène Aldeguer lors du festival de Collioure à l'automne dernier. Et puis, passé cette rediffusion, eh bien, quelques dates pour votre agenda. Et puis, il y a un événement quand même qui s'annonce régulièrement quand le printemps s'installe à Montpellier, c'est la Comédie du Livre. Cette année, elle sera helvétique. On a une idée plus précise des auteurs qui vont venir et nous allons commencer à vous parler de quelques-uns d'entre eux. Voilà. Allez, c'est parti pour la rediffusion. Alors, première partie, donc BD, avec une jeune auteure de 34 ans, Hélène Aldeguer. Alors, je disais bande dessinée actualité, parce qu'elle a sorti des albums qui ne parlent que d'actualité. Alors, elle a été formée à l'école Étienne, une école prestigieuse. Elle a publié un premier album sur la Tunisie en 2014. Elle a été sélectionnée au Festival d'Angoulême parmi les jeunes talents, donc une auteure prometteuse, on va dire, et repérée. Et puis, elle illustre, elle fait une grande tradition de la BD, c'est-à-dire qu'elle fait de l'illustration dans la presse, notamment pour un média spécialisé sur les questions de l'Orient, Orient 21. Voilà, premier album, c'était à la découverte, il y a un peu plus d'un an, avec Alain Grèche, qui s'intéressait aux amours étranges entre la gauche française, notamment un certain François Hollande, et la droite israélienne, la droite la plus à droite qu'on a eue en Israël depuis fort longtemps, celle de Benyahou. Voilà. Et puis, à la rentrée, il y a, au début de ce mois, un autre album consacré à la Tunisie qui s'appelle « Après le printemps ». Et ça, c'est aux éditions Futuropolis. Alors, eh bien, en voilà suffisamment de dit. Et puis, pourquoi la Tunisie ? Elle est une auteure de bande dessinée qui est très proche de la Tunisie, qui est française. Mais la Tunisie, elle a un rapport bien particulier avec ce pays.
J'ai eu la chance d'aller en Tunisie travailler avec des journalistes à Tunis. C'est un média indépendant qui s'appelle Newet, qui était très actif pendant la dictature de Ben Ali et ensuite qui a été au grand jour et qui continue aujourd'hui à être particulièrement vigilant sur un potentiel retour à une politique autoritaire. Et j'y avais passé plusieurs mois, je suis retournée après les élections 2014, donc les premières réelles élections législatives et présidentielles. Et j'ai connu à Tunis, et aussi, c'est pour ça que je parle de Tunis, mais aussi d'une autre ville. L'idée étant qu'en Tunisie, c'est quand même souvent les oubliés, c'est les gens de l'intérieur. Je ne voulais pas les oublier dans mon livre. C'est une région que je connais un peu, c'est le nord-ouest, donc à la frontière algérienne. Sachant que c'est une région avec énormément de chômage, énormément de jeunes pourtant, qui a été aussi touchée par l'instabilité parce qu'il y a la montagne algérienne, donc il y a des maquis à la frontière. Et j'ai connu je me suis vraiment intéressée aux jeunes parce que c'est des jeunes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, et j'ai recréé des personnages à partir de personnes que je connaissais. Donc.
D'accord. Alors pour rentrer dans le roman justement, dans la période que tu décris, on assiste à l'assassinat de plusieurs opposants à Ennahda. Et donc, est-ce que la révolution a été volée finalement au peuple tunisien?
Alors ça, il faudrait justement le demander aux Tunisiens, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire on a quand même plein de nouveaux acquis. Et il y en a qui vont dire, mais pour moi, ça n'a rien changé. Et je pense que ça, j'ai essayé de le montrer un petit peu dans ma bande dessinée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes, peut-être à Tunis, qui viennent d'un certain milieu social, qui ont un capital culturel, et qui vont pouvoir s'engager dans des associations, la société civile, qui vont développer vraiment leur culture démocratique. Et pour eux, il y a un vrai gain de la révolution, parce qu'une liberté de parole, même si c'est dur, une possibilité de, quand même de monter des projets. Et puis, il y a les jeunes de l'intérieur, qui eux, bah, pour eux, ça a rien changé. Je commence ma bande dessinée avec... dans la ville du Kef, qui est près de l'Algérie, il y a eu des manifestations et les gens de la ville ont bloqué la ville parce que le gouvernement leur avait promis de créer de l'emploi et en fait, il n'y en a toujours pas. Et c'est une ville où il y a eu 50% de chômage auprès des jeunes, même auprès des jeunes diplômés. Et pour eux, ils se disent, mais ça a rien changé finalement parce qu'ils se considèrent comme étant oubliés. Il faut savoir quand même que... Donc tout le monde sait Mohamed Bouazizi Sidi Bouzid, c'est lui qui a, enfin le fait qu'il se soit immolé, ça a commencé la révolution. Mais ça, en fait, la révolution, elle a commencé dans les territoires intérieurs, mais elle a tenu pendant 2 semaines. C'est 2 semaines après seulement que ça a commencé à se reporter sur les grosses villes. Heureusement, les grosses villes ont récupéré le flambeau et ont fait vivre la révolution. Mais les gens de l'intérieur ont quand même réussi à tenir cette révolte et cette flamme de contestation pendant 2 semaines. Alors que les médias, sous l'époque de Ben Ali, étaient quand même assez fermés. Donc, qui se sentent oubliés aujourd'hui, alors qu'ils se sont battus et qu'ils ont plein de martyrs de la révolution, pour eux, c'est terrible. Et comme on l'a évoqué, aujourd'hui, le président tunisien est un homme qui a plus de 90 ans, alors que la moyenne d'âge en Tunisie, c'est moins de 30 ans. Comment est-ce qu'un homme de plus de 90 ans peut représenter un peuple, peut s'intéresser à leurs préoccupations et les comprendre? C'est vrai que c'est... Pour la petite anecdote, quand Emmanuel Macron a été voté, a été élu en Tunisie, il y a tout le monde qui a dit « Regardez, Emmanuel Macron égale 2,5 sepsi. Sepsi, c'est le président aujourd'hui. » Parce qu'en fait, pour eux, ils se disaient « C'est incroyable, en France, pourtant la population n'est pas aussi jeune, mais ils ont un... Peu importe ce qu'on pense de lui, ils ont un président qui est jeune. Et nous, on a tous 25 ans et on a un président qui a... » qu'à 93 ou 94 ans.
Eh oui, les politiques sont âgés en Tunisie. Eh oui. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a aussi l'histoire de la laïcité, du féminisme et des fémènes.
Il faut arrêter de voir peut-être la religion comme un bloc monolithique. Chaque pays a sa propre façon de vivre son culte. Chaque personne a sa propre façon. Mais il y a quelque chose que j'évoque dans mon livre, c'est quand il y a des prédicateurs étrangers qui viennent en Tunisie, les Tunisiens disent, mais on n'a pas besoin de, qu'est-ce qu'ils viennent chez nous? Nous, on est musulmans, on n'a pas de problème avec notre religion, mais on veut pas qu'il y ait des gens de l'étranger qui viennent nous dire comment vivre notre religion. Et c'est vrai qu'il y a un personnage qui s'appelle Myriam, qui est une jeune fille qui porte un hijab, mais on n'en parle pas de son hijab, en fait, on s'en fiche. Elle est très politisée, c'est une excellente étudiante en droit, parce qu'il faut savoir aussi en Tunisie, comme dans plein de pays, les filles, c'est tout le temps les majors de promo, elles sont très diplômées, elles sont très instruites, et puis c'est pas parce qu'elle a un hijab qu'elle a pas sa langue dans sa poche, quoi. Elle va dire ce qu'elle pense, elle va s'engager. Et en fait, pour eux, on peut pas dire que la Tunisie soit un pays laïque au sens français, parce que c'est très particulier, mais ils vont avoir leur religion, ça va pas leur empêcher d'avoir un engagement politique et de réclamer leurs droits et je pense que la Tunisie est un cas peut-être un peu particulier. On voit aujourd'hui comme la situation de la Tunisie se démarque un peu des autres pays. C'est peut-être parce que justement la population arrive à faire vivre son culte et en même temps à avoir un engagement politique très, très fort.
On découvre dans ta BD le choc que les fémènes ont causé en venant manifester seins nus pour défendre la cause de l'une d'entre elles, Amita. Les Occidentaux sont-ils aveugles et contre-productifs, ou est-ce que ce genre de provocation finalement est utile? Tu vois ça comment en étant proche d'eux finalement?
Alors il y a plusieurs choses, juste pour mettre un petit peu le contexte. Donc il y avait Amina, une jeune Tunisienne qui avait manifesté, qui avait pris une photo d'elle seins nus, qui avait posté avec écrit fémène, qui avait posté ça sur Internet, qui avait été accusée d'atteinte aux bonnes mœurs et qui avait été mise en prison. Donc il y a 3 fémènes européennes qui sont venues manifester seins nus. Pour l'anecdote, il faut quand même savoir que les fémènes occidentales ont été emprisonnées, mais très rapidement elles sont sorties. Et par contre, la fémène tunisienne, elle est restée plus longtemps. Et ce qui est fort pour les Tunisiens, c'est de se dire, parmi les trois femmes occidentales, il y en avait deux françaises. Si vous voulez, quand vous êtes femme blanche française et que vous allez en Tunisie, il faut éviter d'avoir la posture postcoloniale qui donne des leçons. C'est-à-dire que eux, ils vont dire Amina, c'est une Tunisienne et en fait, donc il y avait eu aussi une accusation de profanation d'un cimetière. Peu importe tous les termes d'accusation qui lui ont été mis. Au final, on se dit, les Françaises, c'est bien, elles viennent, elles manifestent, mais de toute façon, après, elles risquent rien parce que y a l'ambassadeur, il va les faire sortir, et puis elles auront fait leur coup de médiatisation. Par contre, la Tunisienne, elle est encore en prison. Donc, c'est pas exactement, disons que l'effet de la manifestation ça a peut-être médiatisé un petit peu, mais finalement, je pense que ce qui est dur pour les Tunisiens, c'est que il faut arrêter de croire que le féminisme, c'est quelque chose d'occidental. Il y a du féminisme dans tous les pays, c'est juste qu'ils prennent une forme particulière. Et il faut arrêter aussi de croire que islam et féminisme est incompatible, parce qu'il y a énormément de femmes féministes qui sont croyantes, qui vivent leur religion et leur féminisme ensemble, c'est juste que on les connaît pas. Et quand ce sont des étrangers qui importent finalement un féminisme, mais qui n'a pas d'empreinte locale, qui peut pas s'ancrer, parce que ces femmes-là, elles connaissaient pas la Tunisie, puis elles connaissaient pas le peuple tunisien, et elles avaient pas du tout de clé de compréhension. Donc c'était juste prendre quelque chose en France et hop, l'amener en Tunisie, et évidemment, ça n'a pas servi. Si l'idée était de faire sortir Amina, ça n'a pas marché.
Et ces Tunisiens qui émigrent, pourquoi ?
Il y a plus de la moitié des jeunes Tunisiens, Tunisiennes qui pensent qu'à une chose, c'est émigrer. Donc c'est quand même assez fou, parce que nous, on a une vision assez positive de la Tunisie quand même, et eux, c'est pas du tout le cas. Je pense aussi que le fait que ça soit si compliqué de voyager, ça crée une espèce de frustration et un fantasme sur l'Europe, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est donc que cette zone, ces pays où quand on peut pas y aller, et puis parfois, tout le monde connaît quelqu'un qui a réussi à partir, et puis qui envoie des photos, et puis qui montre ce qu'il fait, il y a un fantasme qui se crée. Parce qu'évidemment, après, quand ils arrivent là-bas, ça dépend des conditions, mais c'est pas tout rose non plus. C'est quand même encore assez compliqué. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, quand on est jeune, si on connaît personne, c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est qu'il faut connaître quelqu'un. Que ce soit dans l'administration, pour avoir un travail. Il y a énormément de chômage, et il faut savoir que parmi les gens qui travaillent, il y a une énorme partie c'est du travail informel, en fait. Donc il y a des gens qui sont diplômés, qui ont un master et qui vont vendre des savons par terre dans un marché. Donc il y a aucune sécurité, c'est complètement précaire et ils gagnent très peu, et évidemment c'est pour ça qu'il y en a qui bravent la Méditerranée pour essayer de venir jusqu'ici.
La Tunisie, ce n'est plus le régime de Ben Ali, et pourtant la répression, voire la torture, sont toujours là.
Il y a des statistiques aussi qui se font, c'est-à-dire que la torture, elle existe encore toujours en Tunisie, et que la plupart des jeunes, quand ils se font arrêter, ils passent au poste de police, ils se font tabasser. Ils se font prendre le peu d'argent qu'ils ont dans les poches, puis ils rentrent chez eux, et puis ils ont rien. Il y a une loi qui est en amendement, c'était une loi extrêmement connue sous la période de Ben Ali, c'était la loi 52, c'est-à-dire que si on vous prend en train de fumer un joint, ou en possession, ou quoi que ce soit, un tout petit peu, c'est un an de prison. Donc c'est-à-dire que tous les jeunes, vous avez déjà rien, vous faites un an de prison, vous ressortez de là, c'est encore pire qu'avant, d'une part, et d'autre part, c'était un moyen aussi que dès que quelqu'un, il ouvrait un petit peu sa bouche et il disait des choses pas très consensuelles pour le gouvernement, hop, de toute façon, créer des fausses preuves pour qu'il ait un joint quand c'est un jeune qui a 20 ans, qui a des amis un peu partout dans le quartier, c'est facile, et on les mettait en prison. Donc ça, c'est en cours d'amendement, mais c'est-à-dire qu'ils réduisent les peines par rapport à la consommation de cannabis, mais c'est pas encore fait. Donc c'est en cours, il y a de belles propositions, et en même temps, il y a peur d'un retour, puis il y a des crises de partis politiques, ça c'est... Aujourd'hui, par exemple, oui, ça existe partout, mais par exemple, aujourd'hui, le gouvernement tunisien, c'est un accord entre Narda, le parti islamiste, et Nid et Tounes, le parti plus libéral, moderniste, comme il s'appelle. Ce qui est assez... Ils se sont mis d'accord, ils ont fait une coalition. Ce qui est assez drôle quand même, parce qu'au final, il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes idées quand même, les deux partis. Il y a des gens qui ont voté pour Narda, il y a des gens qui ont voté pour Nid et Tounes. Et finalement, ils se sont mis d'accord, les Tunisiens, ils se sont dit... Pourquoi je vote pour un parti si finalement il va se mettre d'accord avec l'autre ? En fait, ils se partagent le gâteau entre eux.
La Tunisie, oui, on pense Tunis, les villes et le printemps arabe. Ça se passe dans les campagnes, le printemps, aussi dans le monde rural.
Pour moi, il y a des combats pour les femmes qui gagneraient à être encore plus connues Et ça, je le montre un petit peu dans ma bande dessinée, c'est-à-dire les femmes des milieux ruraux. Il y a des films qui ont été faits ou des reportages, mais c'est encore assez méconnu, c'est-à-dire les femmes, à quel point dans les milieux ruraux, elles travaillent énormément. Elles sont évidemment moins payées que les hommes, ça c'est toujours le cas. Et en même temps, elles s'occupent de la famille, elles s'occupent de la maison. En général, il y a une autosuffisance alimentaire en travaillant un potager ou quoi. Elles travaillent dans les champs, donc c'est un travail physique. Et en même temps, malheureusement, en tout cas, c'est en train de changer, mais elles n'ont pas encore eu la chance pour certaines d'aller à l'école ou d'avoir un capital culturel suffisant pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et le milieu rural est un milieu assez dur dans le sens où il y a encore peu de... Les débats qui sont très visibles sont les débats des citadins. Et dans les milieux ruraux, ça prend, mais ça prend plus doucement. Parce que il y a moins de gens pour rapporter ensuite leurs propres débats et les faire venir jusqu'à Tunis, où là on va pouvoir en parler en assemblée. Ça prend un peu de temps, mais les gens en ont conscience et ça commence à gagner. Et je pense que c'est avec ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens au gouvernement, pour le moment, ils sont partis de l'ancienne génération. Et là, les activistes, ils ont 30, 35. Ce sera quand eux, ils vont pouvoir s'investir réellement dans la politique du pays. Je pense que là, ça va vraiment pouvoir bouger, mais il faut encore un peu de temps à ce niveau-là.
Voilà, c'était une rencontre avec Hélène Aldeguer au festival de Collioure au mois de septembre. Elle a été interrogée par le directeur artistique du festival, Gildas Giraudot, et par le libraire attitré Roger Coste de la librairie Torquatis à Perpignan. Et maintenant, nous passons à notre agenda. Alors, quelques dates à noter dans votre agenda, ce qui est bien le vôtre d'agenda, plus que le nôtre. Allez, demain, vendredi, ou hier, si vous nous écoutez le samedi, c'est raté, à la Géosphère, Raymond Alcover, que nous avons reçu dans cette émission, présente son livre « Les Cézéroultais qui ont fait l'histoire », qu'il consacre à quelques grandes figures, quelques-unes connues, quelques-unes totalement inconnues ou méconnues, qui ont fait l'histoire de l'Hérault et dont on retrouve des traces au travers des noms de rues, de places, à droite à gauche dans le département. Donc à la Géosphère, pensez à réserver, soit par mail, librairiegeosphere@gmail.com, tout attaché, ou bien par téléphone au 04 99 06 86 29. 04 99 06 86 29, la Géosphère, Raymond Alcover, vendredi 22 mars. Et puis, allez, on va avancer un peu plus dans le temps. Le 27 mars, la librairie Tapuscrit, nous avons aussi reçu dans notre émission, ils sont 7 rue Raoult, et ils vous proposeront un atelier d'écriture le 27 mars de 18 à 20 heures. Allez sur leur site et vous aurez tous les détails. Le 27 mars aussi, alors si vous avez des amis qui sont du côté d'Alès, conseillez-leur de faire un petit tour sur la librairie Sorambes en Cévennes à 19h30, car ils pourront rencontrer Victor Delarbol. Victor Delarbol, un écrivain qu'on aime bien, qui commence à être bien connu en France, qui a publié plusieurs livres dans la collection Actes Noirs. Alors, c'est du noir, oui, mais c'est plus que du noir, voire c'est devenu autre chose que du noir. Mais bon, maintenant, il est toujours publié dans cette collection. Et là, ce sera pour son dernier livre qui s'appelle « Par-delà la pluie ». Le 28 mars, alors ça, pardon, Victor Delarbol, ça c'est pour vos amis qui habitent à Alès, et ça se passe à la librairie Sorambes, c'est à Alès, à 19h30. Le 28 mars, on revient à Montpellier, 28 mars, la médiathèque Émile Zola, vous aurez l'occasion de rencontrer Eugène Ebodé, l'écrivain camerounais, pour son dernier livre, Le Balcon de Dieu, l'occasion d'une dédicace. Il était à la Grande Librairie en février, et s'il vous a séduit, eh bien vous pourrez aller le voir à la médiathèque Zola, donc le 28 mars. le 30 mars, allez, tapuscris encore. Alors là, ça se passera l'après-midi de 15h à 18h. C'est Paul Coutsy qui vous propose une exposition éphémère autour du fil de l'eau, hein, autour des étangs, de la plage, donc qui sont au sud de Montpellier, Mouguio, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est autour d'un projet, d'un gros projet qu'il a de bande dessinée, de nouvelles en bande dessinée, qui s'appelle La frontière des vagues. On en reparlera dans notre émission prochainement, normalement, c'est prévu. Et alors là, il y aura des expositions, des lectures, enfin une exposition, des lectures et même de la chanson. Un projet ambitieux, très séduisant. Et puis allez, pour date un petit peu plus en avance, le cercle de lecture féministe continue ses activités hein, avec l'association Les Anémones et ils vous proposeront de se rencontrer autour d'un roman de Chimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle Americana. Alors attention, il change de lieu. Il me semble que les dernières fois, ils étaient à la librairie Fière de l'Être. Mais ils descendent, donc rue du Bras de Fer. Allez, ils descendent un petit peu plus bas dans la rue et ils vont aller au Bookshop, une librairie salon de thé, très British, mais pas seulement, très anglophone en tout cas. 8 rue du Bras de Fer, le Bookshop, donc le secte de lecture féministe. Et ce sera le 4 avril. Voilà, voilà quelques dates, j'espère que vous les avez notées. Et puis maintenant, nous allons passer à autre chose, qui va arriver au mois de mai, la comédie du livre, avec une flopée d'auteurs helvétiques, enfin une flopée entre quelques auteurs helvétiques, qu'on ne connaît pas forcément très bien. Eh bien, nous allons essayer de vous en présenter quelques-uns, tout de suite après, tout de suite. Alors, nous allons commencer notre revue de détails, si je puis dire, des auteurs suisses qui vont venir à Montpellier au mois de mai, avec des auteurs qui écrivent du polar. Oui, parce qu'il semblerait qu'il se passe quelque chose, en Suisse romande en tout cas, que le polar est en train de monter. Quelques auteurs commencent à avoir des francs succès. Et puis, à Lausanne, il y a un festival de romans noirs qui s'est créé, Lausanne Noir. Et c'est une première, il n'y avait pas de festival de roman noir dans la Confédération, à notre connaissance, avant celui-là. Alors, un premier auteur, c'est Mark Woltenhauer, qui vient de publier, en tout cas normalement vous l'avez sur les tables de votre libraire préféré depuis la semaine dernière, L'Aigle de sang. L'Aigle de sang aux éditions Statkin et compagnie. Alors, c'est le troisième roman policier de Mark Woltenhauer. Il avait publié, il y a quelques années, un premier roman qui s'appelait Le Dragon du Muvran, le Muvran étant une montagne. Et puis, un deuxième qui avait un titre un petit peu ironique, qui s'appelait Qui a tué Heidi. Alors, il n'a rien à voir avec la Heidi de Johann Aspiri, hein, la petite héroïne qui vit dans les montagnes. Non, c'est du roman policier, plutôt noir, ça touche un petit peu au thriller. Alors, une des particularités de ces romans, c'est que ça se passe dans un petit village des montagnes vaudoises, c'est ce qu'on appelle les Préalpes vaudoises, un peu au-dessus de Martigny, un petit village qui s'appelle Grillon. Un village très paisible, a priori pas du tout un décor de roman policier. Pourquoi ? Parce que Mark Woltenhauer vit dans ce village depuis quelque temps, avec son compagnon qui est originaire de ce village, hein, qui est une vieille famille du village. Et lui-même, il est d'une mère suédoise, d'un père allemand, il est né à Genève, il a fait des études de théologie, il a travaillé comme commercial dans la pharmacie, si je me souviens bien. Et puis, il est avec ses origines suédoises, il lisait beaucoup de polars suédois. Et puis, un beau jour, il s'est dit que ce petit village de Grillon, Faisait penser à certains polars suédois, en tout cas un décor similaire, et qu'il pouvait s'y passer des choses. Et du coup, les meurtres ont commencé à débouler sur le petit village de Grillon, qui compte moins de 1000 habitants lorsque la saison touristique est passée, et qui en compte beaucoup plus en période touristique. Des polars qui touchent un peu au fantastique, presque, oui, pas tout à fait, mais presque. Il y a quelque chose un peu du thriller. Il y a des... Le religieux est souvent pas loin. Dans le premier, le dragon du Muvran retrouvait une victime sur l'autel de l'église du temple, puisque c'est le temple protestant du temple de Grillon. Ah. Comment est-il arrivé là? Et puis des références à des psaumes, enfin voilà. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu trouble de ce côté-là. Dans le deuxième, qui a tué Heidi, on découvre que Grillon n'est pas juste un petit village vaudois, c'est un village parce qu'il y a des intérêts touristiques, donc de l'argent. C'est un village qui est aussi connecté avec le reste du monde. Et là, dans ce deuxième roman, Mark Waltoner a développé une intrigue qui va nous emmener jusqu'en Russie. Et puis, pour ce troisième roman qui vient de paraître, donc là, il laisse un petit peu le village de Grillon de côté et il retourne dans le pays d'origine, pas seulement de sa mère, mais de son personnage principal, un pays dont il vient, la Suède. Et on va arriver sur une petite île suédoise. Alors, une des particularités aussi de ces romans, que certains de ses lecteurs apprécient, c'est le personnage central de son policier, Andreas Auer, qui est officier à Lausanne et puis qui vit à Grillon, et qui est quelqu'un qui a une vie tranquille. Il vit avec son compagnon dans le village de Grillon et ça se passe plutôt bien pour eux. Oh bon, il y a eu quelques problèmes de professionnels. Oui, c'est vrai qu'il a été un peu suspendu et puis on lui a reproché un certain nombre de choses dans différentes affaires. Voilà, donc c'est pas si simple. Pour autant, ça n'apparaît pas, en tout cas pas au début, comme quelqu'un de particulièrement tourmenté. Oui, sauf que, et ça c'était le deuxième roman qui nous l'avait laissé entrevoir, ses origines sont un petit peu mystérieuses, il semblerait qu'on lui ait caché des choses. Et c'est l'objet de ce troisième roman. Quoi ? Ah ah ! Eh bien, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Lisez L'Aigle de sang et vous saurez tout. Oui, un dernier mot pour dire... De roman en roman, on peut voir une écriture qui se précise, qui s'affine, qui devient de plus en plus un rouage très précis de romans policiers, de romans noirs ou de thrillers presque. Et une fois qu'on est embarqué dedans, difficile d'en sortir. Alors certains critiques trouvent que c'est trop convenu, mais c'est terriblement efficace, vraiment efficace, et je vous dis, en Suisse romande, ça a un succès, c'est l'auteur phénomène de ces dernières années. Bien entendu, nous continuerons à vous présenter quelques auteurs helvétiques, si on y arrive, même la totalité de ceux qui viendront nous visiter à Montpellier dès la semaine prochaine. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes lectures, helvétiques ou pas, et nous vous disons à la semaine prochaine. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.